On parle
de tout.
De tout.
On parle de tout.
De tout, c'est fou, non?
De tout.
Et surtout,
de ça.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ici à l'émission On parle de tout et surtout de ça. Ce soir, nous allons parler psychogénéalogie, mais avant, on commence sur une petite touche d'humour avec Didier Bénureau, la maman de ma maman.
Je ne peux pas te dire je t'aime, j'aime trop ma maman, femme de 60 ans, au visage d'enfant, même si elle a 20 ans, de plus que moi maman, elle reste avec Néné, ma première fiancée, je me souviens de son cabas, rempli de haut en bas, et de son cœur qui bat pour son gentil bébé. C'est la maman de maman, ma mimi,
ma mimi.
C'est le bébé de mémé, ma maman,
ma maman.
Car ma mémé fut maman, quand ma maman fut bébé. Et le bébé de ma mémé, c'est maman, c'est la maman de ma maman, c'est mémé. Mon mémé, c'est ma maman, mémé. Attention, couplet politique. En grandissant, parfois l'on croit, pour être un homme, on doit oublier à jamais le bébé qu'on était. Alors ça, c'est faux parce que paraîtrait même que le président, sur sa ligne privée, entend de temps en temps une voix murmurer. Allô, c'est toi mon bébé? Allô, c'est toi maman? C'est la maman du président. Et même les méchants voyous ont une petite maman qu'ils appellent tendrement après leur mauvais coup. Allô maman, j'ai encore fait un mauvais coup. C'est la maman de maman, ma mémé. C'est le bébé de mémé, ma maman. Car ma mémé fut maman quand ma maman fut bébé. Le bébé de ma mémé, c'est maman. La maman de ma maman, c'est Mimi. Mon aimé, c'est ma maman. Mimi. Conclusion. Tu ne pourras jamais m'aimer comme m'aimait maman. Mais mon mimi, qui m'aimait tout autant. Que faut-il finalement pour faire une maman? Des enfants incapables. L'amour d'un papa, qui c'est le papa de papa, mon pipi, c'est le bébé de pépé, mon papa, car mon pépé fut papa, quand mon papa fut bébé, le pépé de mon pépé, c'est papa, le papa de mon papa, c'est pépé, mon mémé, c'est mon papa, c'est pépé.
Vous venez d'écouter Didier Bénureau pour une super entrée en matière pour parler de psychogénéalogie ce soir avec Véronique César. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Marion.
Donc tu vas pouvoir nous expliquer ce soir un petit peu la psychogénéalogie parce que je pense que nous sommes beaucoup ici à pas vraiment comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est la généalogie, la psychologie, un peu des deux?
Alors, la psychogénéalogie est un terme déjà qui a été mis au point par une psychologue qui s'appelle Anne-Ancelin Schutzenberger et qui, dans les années 50, s'est intéressée aux après-guerres et surtout s'est rendu compte que il y avait dans les descendances de personnes qui avaient vécu la guerre des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants qui n'avaient pas connu la guerre et qui avaient des réminiscences de choses qui s'étaient passées des années en arrière chez leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Notamment des gens qui remplissaient leurs placards par peur de mourir de faim, des gens qui achetaient des tonnes de chaussures. Et en allant creuser un petit peu plus loin, elle s'est rendue compte qu'en fait, ceux qui avaient peur de mourir de faim, eh bien, ils étaient souvent issus de parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient soit morts de famine, soit qui avaient vraiment souffert de la faim. Ceux qui avaient acheté des tonnes de chaussures étaient issus d'ancêtres qui n'avaient plus de chaussures et qui marchaient pieds nus. Et donc, avec plein d'autres exemples de même sorte, elle s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait passer de génération en génération. Donc, elle a travaillé avec d'autres personnes, d'autres médecins. Françoise Dolto a été aussi une ambassadrice de la psychogénéalogie. Elle disait, elle, que les enfants sont là pour soigner les blessures de leurs parents.
Super.
Donc effectivement, plaisir. Voilà. C'est une technique qui allie à la fois la généalogie, donc parents, grands-parents, la famille, et la psycho, c'est-à-dire l'analyse, l'explication, en fait, de ce qui s'est passé de génération en génération.
Donc, en gros, là, ce que tu es en train de dire, c'est que vraiment, on porte le poids de tout ce qui peut venir de notre famille, donc des aïeux. Et donc ça peut aller quand même très très loin quand tu expliques, ça peut être même pas de mémoire d'homme, c'est ça ?
C'est ça. Alors effectivement, elle est allée plus loin que la famille en parlant même de mémoire ancestrale parfois. Alors lorsqu'il y a un événement marquant, elle dit qu'on parle de quintessence de l'événement. En général, il est là pendant au moins 5 générations et puis il y a toujours quelqu'un qui arrive à s'en débarrasser. Elle appelait d'ailleurs l'événement traumatisant la patate chaude, en expliquant que de génération en génération, on se passait la patate chaude parce qu'elle nous brûlait les mains et qu'il y avait une génération qui arrivait à la faire refroidir. Mais effectivement, alors tu parles de poids. Parfois, c'est pas toujours un poids, c'est-à-dire que dans la psychogénéalogie, on n'explique pas seulement les choses négatives, les événements traumatisants, mais on peut aussi parler de très belles choses qui se passent de génération en génération, parce que il n'y a pas toujours que des choses qui génèrent des blocages ou des blessures. Il y a aussi des choses extrêmement positives qu'on récupère de génération en génération, et ça, c'est plutôt chouette.
Bon, alors déjà, c'est une bonne nouvelle. On ne tient pas que les fardeaux, même s'il y en a quand même en partie.
C'est ça.
On a aussi les qualités de la famille.
Tout à fait.
Ok, donc ça c'est chouette. Donc, ce serait vraiment elle la précurseur. Est-ce que tu peux nous rappeler son nom, s'il te plaît ?
Oui, donc elle s'appelle Anne Ancelin Schutzenberger. Elle était psychologue. Alors je dis elle était parce que je sais qu'elle est très âgée. J'ignore si elle est toujours parmi nous. Mais, et elle a même été donc professeure de psycho à la faculté de psychologie de Nice. Et elle donnait des cours de psychogénéalogie, chose que malheureusement on ne voit plus dans les... Enfin, je pense que dans beaucoup de facultés, il n'y a pas ça. Et c'est, pour moi, c'est un grand dommage.
D'accord. Donc le mot psychogénéalogie, ça vient vraiment du fait de l'étude de la génétique, des liens transgénérationnels. Voilà, donc c'est vraiment ça, la racine du mot.
Tout à fait.
Et il me semble qu'elle a écrit un livre qui a été un best-seller.
Oui, Aïe mes aïeux. Après, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à ça. Mais effectivement, ce livre-là, c'est un des premiers livres qui a parlé de psychogénéalogie et qui est très, très intéressant à lire d'ailleurs, comme base de lecture.
Et il est explicatif, ce sont des études de cas, il me semble.
Il y a des deux, voilà. Et elle explique en fait le fonctionnement et puis il y a des études de cas par rapport à des premiers cas sur lesquels elle a travaillé.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette patate qui a refroidi ? On la mange ? On la jette ?
On en fait une bonne purée et puis on la déguste. Effectivement, le fait de faire refroidir la patate chaude fait qu'on part sur des bases qui sont plus saines et on parle d'individualité. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à la naissance, Alors, la médecine est en train de beaucoup évoluer aujourd'hui par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de génétique, hein, maladie génétique, de génération en génération. Et de plus en plus, les chercheurs sont en train d'aller, on va dire, fouiller dans les cellules, voir si y a des choses qui passent, comme la couleur des cheveux et des yeux, et s'il n'y aurait pas aussi des mémoires de choc émotionnel, positifs ou négatifs, qui passeraient aussi de cellule en cellule et de génération en génération. Donc, ce travail-là, je sais qu'il avance, qu'il est en train de se faire. Dans les magazines comme Science et Vie, les derniers, il y a des choses sur les cellules, les mémoires cellulaires. Donc, ça avance, et je trouve que c'est plutôt sympa. Et le côté positif ou négatif, c'est que on s'aperçoit qu'à la naissance, en fait, on porte un héritage, ou on peut porter un héritage émotionnel, alors qu'il y a à la fois quelque chose qui peut être chouette, mais c'est aussi quelque chose qui peut être handicapant, parce que porter un héritage, ben, ça veut dire que on pense faire nos propres choix dans notre vie, et en fait, ben, on s'aperçoit qu'on ne les fait pas. Alors, je dis on s'aperçoit et ça m'appartient, parce que ça fait maintenant des années que je travaille en psychogénéalogie, et je m'aperçois que les gens ont vraiment l'impression, ben, qu'ils font des choses qui leur appartiennent, qu'ils font des choses qui sont leurs choix propres, alors qu'en fait, on est guidé toujours par ce qui s'est passé au-dessus. Donc, c'est à la fois chouette, puis c'est à la fois terrible, parce que du coup, on n'a pas d'individualité. Donc, le but, c'est refroidir la patate chaude pour retrouver son individualité.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander. C'est donc du coup, voilà, donc il y a du positif et du négatif, mais dans tous les cas, on est quand même, c'est comme si nous étions déjà sur un chemin tracé, dessiné, parce que nous sommes dans une certaine famille, donc un certain conditionnement. Et donc, tu es en train de nous rassurer d'une certaine manière en disant qu'on peut sortir de ce chemin pour avoir le nôtre.
Tout à fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'à partir du moment où on en prend conscience, à partir du moment où on vit des choses difficiles et qu'on a envie de bouger, alors, c'est pas de la magie, hein, mais par contre, le fait de travailler sur sa famille peut déjà nous faire prendre conscience de plein de choses. Et y a des solutions pour pouvoir sortir de ça. Donc, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Effectivement. Et puis, en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure, que ce serait inscrit dans les cellules et qu'il y aurait donc du coup des chercheurs qui vont dedans, ça veut dire que la psychogénéalogie n'est pas seulement dans la tête, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est transmis génétiquement. Donc on va encore plus loin que vraiment le fait que ce soit des sentiments, des émotions, c'est que ce serait dans le code génétique.
Alors effectivement, tu utilises le « ce serait », je ne peux pas aujourd'hui moi m'avancer, bien qu'avec tout ce que j'ai pu voir et que j'ai pu vivre, aujourd'hui, si on me pose, si on me demande mon avis, moi je suis persuadée qu'il y a effectivement des choses qui passent. Maintenant, bon, à la médecine et à la science de le prouver, mais on parle depuis des années de maladies génétiquement transmissibles. Si des maladies sont génétiquement transmissibles, pourquoi il n'y aurait pas d'autre chose? Et effectivement, moi, de par ce que je vois et de par les cas sur lesquels je travaille, il y a en effet plein de choses, mais qui sont flagrantes, qui passent de génération en génération. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui peuvent parler de schémas répétitifs. Et dans chaque famille, je pense qu'il y a une prise de conscience de ça.
Oui, ce qu'on appelle les vieux schémas en énergétique.
C'est ça.
Et d'ailleurs, effectivement, ce sont des choses qu'on retrouve énormément. Ce dont tu me parles en psychogénéalogie, des liens transgénérationnels, du mot qu'on n'a peut-être pas d'ailleurs encore utilisé, mais on y reviendra tout à l'heure dans tous les cas. C'est vrai que ce sont des choses qui se retrouvent en énergétique. Et là, on se dit qu'il y a quand même des liens à faire qui peuvent être très intéressants. Et que la science commence à mettre son nez dedans, là on commence vraiment à arriver à quelque chose qui peut faire évoluer. Et je suis pour tout ça.
Je suis pour aussi.
Voilà. Donc, ce que je propose après cette brève présentation, on pourra aller vraiment dans le vif du sujet et pouvoir vraiment expliquer plus en profondeur la patate chaude, les liens transgénérationnels, enfin bref, un programme super. Je vous propose d'écouter Michel Coringe, La Route.
La route m'appelle et m'attire, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Ce soir ici j'ai trouvé un lit, de demain je coucherai dehors. Beaucoup de routes ramènent vers vous, mais ma route m'entraîne toujours. Et j'ajoute des lieux et des lieux aux lieux qui me séparent de vous. J'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté. Que m'importe droits et doctrines, ma seule loi c'est la fatigue. Que m'importe le temps qui passe, quand mon seul guide est le hasard. Quelquefois une longue halte pour satisfaire une compagne, mais le vent qui crie et qui passe m'invite à prendre le départ. Oh, bien sûr, j'ai souvent faim et froid. J'ai envie de m'arrêter parfois, mais ma route m'entraîne toujours. Désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté.
On parle de tout et surtout de ça avec en invité Véronique César qui va nous parler de psychogénéalogie. Et à l'instant, vous venez d'écouter Michel Coringe, La Route. Alors Véro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des liens transgénérationnels comme nous avons commencé vraiment brièvement à parler pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'explication?
Oui, bien sûr. En fait, lorsqu'une personne vient me voir, par exemple, parce qu'elle a un blocage, quelque chose qu'elle fait en continu, la plupart du temps, c'est bon, soit je porte une émotion qui ne m'appartient pas, je suis en colère, mais pourtant, je n'ai pas de raison d'être en colère, ou alors, ben, je suis toujours avec le même type de personne, ou alors, je voudrais faire ça, mais j'y arrive pas. Eh bien, on commence par monter l'arbre généalogique. Donc, comme un ancien Schutzenberger a appelé le génogramme. D'accord. Donc, génogramme, c'est les parents, les grands-parents, donc les prénoms, les dates de naissance, les positions. Alors, quelque chose qui est très important, c'est le positionnement dans la fratrie.
Alors, c'est-à-dire le positionnement dans la fratrie
Eh bien, en fait, lorsque j'arrive, je suis quel numéro ? Partant du fait qu'une grossesse conscientisée compte pour un. C'est-à-dire si ma mère a fait une fausse couche, si ma mère a fait un IVG, si ma mère a eu un enfant mort-né mais qu'elle n'en a jamais parlé, cela compte pour une grossesse. Donc si je viens moi et qu'avant moi il y a eu par exemple une fausse couche et un IVG, je serai le numéro 3 et non pas l'aîné.
Et du coup ça devient compliqué de commencer à savoir réellement ça entre tous les non-dits dans les familles, entre ce que nos grands-parents disaient pas parce que ça ne se faisait pas, entre tous les avortements qu'il y a eu quand c'était encore illégal.
C'était très tabou.
Ouais, exactement. Mm-hmm. Donc ça commence à devenir compliqué d'avoir la vérité dans l'arbre, alors.
Alors, oui, au départ, ça paraît très compliqué, mais les personnes se prennent très rapidement au jeu. Et en fait, elles revêtent leur vêtement de Sherlock Holmes. Et je peux t'assurer qu'il y a des gens qui arrivent en disant « Non, mais moi, je sais rien. Puis dans ma famille, ça va être difficile. » Alors moi, je dis toujours, je vais être un peu trivial, hein, je dis toujours, vous savez, c'est comme le cocu, il n'y a que lui qui sait qu'il n'est pas cocu, mais tout le monde le sait. Et en fait, quand il y a un événement traumatisant ou quelque chose qui s'est passé, un secret, secret familial. Au sein de la famille, on n'est pas toujours au courant, mais tout l'entourage le sait. Donc parfois, effectivement, quand on va faire des recherches, il ne faut pas s'arrêter qu'à la famille. Alors la famille, on va leur dire qu'on fait un travail généalogique, mais autour, on va aller poser des questions et c'est là que ça commence à être très intéressant.
Surtout quand on a des voisins très curieux qui sortent les jumelles pour épier nos fils et gestes.
Tout à fait.
Donc, pour faire un travail en psychogénéalogie, il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu des infos, des renseignements, des choses comme ça.
Oui, et puis surtout qu'on sait que les secrets de famille sont très lourds à porter et qu'en fait, un secret ne reste jamais un secret. Parce que comme un secret est lourd à porter, eh bien, à un moment, on va le diffuser. Alors, à la meilleure amie, en lui disant « Non, mais tu dis rien », puis la meilleure amie ne va pas le garder pour elle, elle va diffuser à l'autre meilleure amie. Et puis, du coup, c'est pour ça que le secret ne reste pas longtemps un secret et qu'effectivement, on peut tomber sur la réalité des choses très rapidement.
Ok, donc ça nous avons bien compris par rapport au secret. Et moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus, c'est la place dans la fratrie. Donc, qu'est-ce que ça peut... Alors, explique-nous peut-être un petit peu, qu'est-ce que ça change qu'on soit le premier, le deuxième, qu'il y ait une fausse couche avant, après nous. Enfin, voilà, parce que... bon.
Je t'explique. Alors en fait, tout ça est issu des recherches qu'a fait Anne Ancelin et puis toutes les personnes qui ont travaillé de la même façon qu'elle, je dirais moi y compris, dans la descendance. Donc c'est assez mathématique. Alors dans un arbre, on est lié avec tout le monde, a priori, puisqu'on a du sang qui vient de nos ancêtres. Mais il y a des liens ou des reliances particulières. Alors, on va dire que, pour la petite histoire, les numéros 1, donc le vrai numéro 1, est en lien avec le père et les mémoires qui nous viennent du père.
D'accord.
Donc, plus particulièrement. Le numéro 2 est en lien avec la mère, les mémoires, les histoires qui nous viennent de la mère. Le numéro 3, lui, est en lien avec l'énergie du couple. C'est-à-dire que si on a un couple de parents qui est dans le conflit, on peut avoir reçu, donc au niveau du schéma, le fait de construire un couple dans le conflit. Si on est dans l'amour, ça sera chouette parce qu'on va construire un couple dans l'amour. Et c'est une règle de 3. Le numéro 4 est en lien avec le numéro 1 et le père. Le numéro 5 avec le 2 et la mère. Le numéro 6 avec le 3 et le couple. Et ça continue.
Les derniers n'ont pas de chance, en fait.
Mais si, bien sûr, ils ont la chance parce que tout le monde les aime. Et puis, c'est les petits derniers. Non, mais tout le monde a de la chance d'être là et tout le monde a la capacité, le libre arbitre de pouvoir changer sa vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Et ce que tu dis, c'est rigolo parce que là, du coup, je repense donc, aux ordres dans la fratrie, aux personnes qui sont fils uniques. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'en général, les numéros 1 ressemblent physiquement au père. Et les numéros 2 ressemblent physiquement à la mère.
Oui, alors très très souvent, effectivement, et pas que une ressemblance physique, il y a vraiment d'autres ressemblances. Alors, quand on dit ressemblance, ça peut être soit carrément je ressemble, soit je suis le total inverse. Parce que du coup, quand on analyse les schémas familiaux, eh bien, cette fameuse patate chaude, quand on la récupère, eh bien, on peut la transformer. C'est-à-dire que si je suis une fille et je suis issue d'un couple où la mère est en soumission et le père dominateur, eh bien, je peux reconstruire l'inverse. C'est-à-dire, je deviens moi-même dominatrice et je vais chercher un homme qui va être en soumission. Alors, ça vient tout seul. Quand je dis je vais chercher, c'est que bizarrement, et là, on repart sur l'énergie, ça veut dire qu'on rencontre jamais l'autre par hasard.
Alors ça, je suis bien d'accord avec toi, le hasard, ça n'existe pas. Enfin, à chacun de tester cette phrase en tout cas.
Tout à fait.
Et par rapport à ce que tu dis, du coup, on pourrait réussir, en faisant une analyse assez pointue et poussée, à trouver des choses qui ne vont pas dans l'arbre généalogique. C'est-à-dire, on pourrait réussir à trouver, à se dire, c'est bizarre, là, cette personne ne tient pas l'énergie qu'il faudrait par rapport à l'arbre qu'on lui a donné, il y aurait possibilité de fausse couche ou d'avortement avant lui.
Oui, effectivement. Très souvent, quand quelqu'un, par exemple, vient me voir, quand elle me raconte son histoire, de suite, je comprends les hypothèses. C'est-à-dire qu'il y a forcément une ou plusieurs hypothèses à son mal-être. Donc, en fait, moi, je vais aller chercher toutes les hypothèses et voir ce qu'il a pu se passer au-dessus pour que cette personne, en fait, il lui arrive ça ou qu'elle soit comme ça. Donc, c'est un travail d'investigation qui est intéressant où
on n'oublie rien, c'est-à-dire que ce qui est important, ben, c'est les dates de naissance, les dates de conception, les prénoms, les métiers, les maladies. On va vraiment chercher, donc c'est le génosociogramme, tout ce qui tourne au niveau social et autour du génogramme, autour de l'arbre, parce qu'en fait, tout est important. On a par exemple le plus classique, et je pense que chacun s'y retrouvera, ou en tout cas connaît un exemple, c'est... on refait le même métier que maman ou papa. Ou alors oui. Maman n'a pas pu faire ce métier parce que ses parents n'ont pas pu financièrement lui faire faire cette école. Eh bien, en réparation, l'enfant fait le métier que la maman n'a pas pu faire. Et un petit détail qui est important, c'est que souvent, je reçois... il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une dame qui me dit « mais je ne comprends pas ». Ma mère rêvait d'être infirmière, elle n'a pas pu, ses parents n'ont pas pu lui payer les études. Moi, je suis infirmière et pour moi, je me disais, bah, c'est chouette, je fais quelque chose qui plaît à maman puisqu'elle voulait le faire. Et elle me dit, je suis sans arrêt en conflit avec. Et je lui expliquais qu'en fait, oui, sa mère devait être ravie qu'elle fasse infirmière, mais quelque part, quelle frustration qu'elle n'ait pas pu faire le métier d'infirmière et que sa fille le fasse. Donc inconsciemment, il y a aussi peut-être une espèce de jalousie ou quelque chose qui fait que, bah, au départ, ça paraît une incompréhension, puis après, on peut comprendre. Une frustration devient quelque chose qui n'est pas facile à gérer, forcément.
Ouais, on peut comprendre effectivement la place de l'autre et ce que l'autre peut ressentir. Et c'est vraiment rigolo ce que tu dis par rapport à ces métiers. Bon, forcément, je pense à ma propre histoire. Hein. Je pense que toutes les personnes qui écoutent ça, là, l'émission actuellement, sont toutes plongées dans leur généalogie. Et nous sommes une famille d'enseignants. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à comprendre dedans, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est pareil, à la base, on n'est pas enseignant par hasard, on n'est pas médecin par hasard. On est médecin parce que parfois, il y a eu des gens dans la famille qui sont morts et qu'on n'a pas pu soigner. Quelque chose qui est très rigolo. Alors, je dis rigolo parce qu'au lieu de dire terrible, je trouve que c'est mieux. Mais par exemple, dans toutes les familles où il y a eu des faits assez graves et qui n'ont pas été, on va dire, jugés ou les gens, il n'y a pas eu d'arrestation, eh bien, on va retrouver des policiers, des juges ou des avocats. Dans les familles, par exemple, où il y a eu des pertes d'argent, on peut retrouver des banquiers.
Ils réhabilitent, en fait, la famille.
Tout à fait. On peut aussi trouver des Odettes, parce que dans Odette, il y a dette. Et le prénom est important aussi, parce qu'il y a toujours des significations au niveau des prénoms.
Super, même au niveau du prénom. Alors, est-ce que tu peux nous donner, là, comme ça, est-ce que c'est possible? Parce qu'après, je pense que tout fonctionne en cas par cas. Mais peut-être nous donner quelques prénoms et dire ça, ça peut vouloir signifier ça. Est-ce que c'est possible?
Alors, déjà, tous les prénoms bibliques sont des prénoms qu'on met aux enfants, alors en premier ou en second prénom, pour les protéger. Déjà, ce sont des prénoms de protection. Marie par excellence, c'est la protection. Marion. Voilà, tu es protégée.
Je suis protégée.
Voilà, tout à fait. Après, Véronique, c'est la vérité niée. C'est celle qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Dans la famille, il n'y a pas de souci. Je suis celle qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas.
Et en même temps, même dans la famille des autres.
Tout
puisque
à fait.
Tu es là pour montrer un peu du doigt. Alors là, dans votre arbre, ça ne va pas. Donc, d'une certaine manière, tu réhabilites les familles.
Tout à fait.
Et tu dis tout haut les secrets qui sont cachés et tu les pointes du doigt.
Tout à fait. Alors, important aussi, non seulement il y a la signification des prénoms, mais il y a aussi le poids, et là je dis bien le poids, des prénoms que l'on donne à nos enfants.
Ouais.
Alors, prénom, premier prénom, deuxième prénom, troisième prénom, qui sera là pour rappeler la mémoire du grand-père, de la grand-mère, j'en passe, et des meilleurs. Il faut savoir qu'en psychogénéalogie, on s'aperçoit que lorsqu'on met un prénom à un enfant, eh bien, en fait, on lui met le souvenir de la personne, et forcément, c'est comme s'il portait une partie du programme de la personne.
Okay.
Alors, on peut imaginer par exemple que le grand-père, qui était quelqu'un qui avait une vie extrêmement remplie, qui était quelqu'un d'illustre, est décédé. Eh bien, parce que souvent, quand il y en a un qui s'en va, il y en a un qui arrive. Eh bien, on va donner son prénom au petit qui arrive et qui lui portera déjà sur les épaules le fait qu'il faut qu'il soit illustre et qu'il ait quelque chose, qu'il fasse quelque chose de bien dans sa vie. Ce qui peut être très, très lourd à porter parce que si on a envie d'avoir une vie extrêmement légère, il ne va pas correspondre aux valeurs en fait, qu'on lui a données lors de sa naissance. Donc, ce n'est pas toujours simple.
Et là, en sortant un tout petit peu du cadre psychogénéalogie, Le fait de donner comme ça des prénoms d'aïeux ou qui sont morts au moment où on est né, enfin des choses comme ça, est-ce que tu penses que ça peut faire que l'âme de ces personnes-là ait du mal à passer de l'autre côté? Est-ce que ça peut être un lien qui les entrave, eux, à pouvoir passer de l'autre côté?
Alors, ça m'est difficile à moi de me positionner par rapport à ça, mais je sais que l'énergie est quelque chose qui entre en lice par rapport à notre fonctionnement de vie, et je me dis que ça peut être effectivement une hypothèse. Alors, je pense, mais ça m'appartient, qu'il y a effectivement plusieurs choses qui peuvent empêcher certaines personnes de partir. Hein. C'est ce que on appelle en psychogénéalogie les gisants. Donc, ce sont les gens qui sont là et qui sont, on va dire, allez, j'utilise le mot réincarné dans un autre être qui arrive.
D'accord.
Et qui fait qu'effectivement, j'ai un petit exemple qui est très frappant. J'ai reçu une dame qui avait 54 ans, qui s'appelle, son prénom était Joséline. Et en fait, Joséline, on lui a dit, tu es arrivée dans l'année suivante, le décès de ton frère Joseph, qui est décédé à l'âge de 13 ans, et on t'a appelée Joséline pour que, dans la moitié de toi, il y ait le souvenir de ton frère. Et en fait, Joséline, pendant plus de 50 ans, a fonctionné comme un garçon, parce que ne voulant pas décevoir ses parents, et en fait, les rendre plus malheureux qu'ils ne l'étaient suite au décès de cet enfant, eh bien, elle a fait du foot comme son frère, elle a fait des choses comme son frère, et elle a fonctionné comme un garçon, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience qu'en fait, ce qui était important chez elle, c'était Lynn, et qu'il fallait faire partir Joseph. Voilà, donc ça, c'est un autre travail, mais effectivement, je pense que ça peut jouer au niveau de l'énergie et au niveau des gens qui ont du mal à passer.
Ça donne des frissons, tout ça, je pense.
Voilà, et c'est pas un cas unique, hein.
Oui, ça j'imagine. En même temps, ce serait assez logique en donnant le prénom d'une personne décédée que cette personne reste en partie un petit peu là. Donc effectivement, il aurait peut-être un petit travail de passage d'âme à faire dans certains cas.
Tout à fait. J'ai un petit détail qui est important aussi et qu'il faut souligner. Chaque fois qu'on travaille sur un arbre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réhabilite l'arbre. Parce qu'on peut imaginer, on se dit oui, mais alors si je ne vais pas bien et que je vais aller travailler sur mes ancêtres, ça veut dire que quelque part, ils ont fait des trucs pas sympas et qu'ils me les ont transmis. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est important. La majorité des gens qui viennent me disent, je suis venue avec une histoire qui n'était pas super. Je repars avec la même histoire, mais elle est belle. Et je vais t'expliquer pourquoi.
C'est beau.
Ouais, parce qu'en fait, on comprend en travaillant en psychogénéalogie que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà. Et qu'effectivement, si la mère, le père, le grand-père, la grand-mère ont fait des trucs pas sympas qui nous ont semblé être injustes, eh bien, en fait, c'est qu'eux aussi, ils avaient une histoire et qu'avec ce qu'ils ont reçu des générations au-dessus, ils n'avaient peut-être pas le choix de fonctionner autrement qu'ils ont fonctionné. Et quand on comprend ça, on se dit, en fin de compte, c'est pas de leur faute, quoi. Mais le fait de l'avoir compris, déjà, ça réintègre le côté positif de la chose. Et puis, c'est plutôt chouette, parce que quand on a fini ce travail, on est en accord avec tout le monde. Et puis, je pense que là, au niveau de l'énergie, on réhabilite et on fait un joli arbre. Et ça, c'est très, très important.
Effectivement, donc pour moi, avoir vu ça par rapport à l'énergétique des personnes qui avaient travaillé en psychogénéalogie, il y a un énorme changement à ce niveau-là. Ça fonctionne vraiment, ça fonctionne vraiment, et je pense vraiment que c'est complémentaire.
Tout à fait.
C'est important, la psychogénéalogie est importante pour comprendre des blocages, pour comprendre. C'est un outil qui est assez merveilleux. Et c'est vraiment intéressant que tu nous en parles ce soir. Et donc, quand tu nous parlais un petit peu des liens, donc tu nous as parlé des métiers, tu nous as parlé un peu de tout ça, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des couples. Donc ça veut dire qu'en gros, on est obligé de refaire le couple de nos parents?
Non, on n'est pas obligé, mais parfois on le fait. Alors il faut savoir que, en plus de ça, notre cerveau ne connaît pas le négatif. Hein, il connaît le sujet, le verbe, le complément. Le « je ne veux pas ressembler à ma mère » est inscrit au niveau du cerveau comme « je veux ressembler à ma mère ». Donc effectivement, il y a plein de gens qui me arrivent en disant « mais non, je ne veux pas ressembler ni à ma mère ni à mon père ». Mais comment ça se fait que... Alors c'est assez rigolo. Enfin, pas forcément pour eux.
Je pense que beaucoup de personnes font les gros yeux là, voilà. À se dire « oh merde ».
Ben ouais. Donc effectivement, il vaut mieux dire « je veux être différente de ma mère ». Hein, là, le cerveau l'intègre. Alors, effectivement, on a ce qu'on appelle les répétitions de schémas familiaux. Mmh. Alors, ça, c'est important parce qu'on peut, les voir jusqu'à 5 générations. Alors, mes parents ont un certain fonctionnement. J'ai plusieurs choix. Soit je vais reproduire le même schéma, c'est-à-dire, allez, on va prendre un exemple extrême, une femme est avec un homme violent, eh bien, il y a des grandes chances, c'est-à-dire il y a un fort pourcentage pour que la fille de ce couple aille chercher un homme violent. Voilà. Ah oui. C'est le fonctionnement qu'elle a vécu avec ses parents. Je dirais même qu'on appelle ce fonctionnement un fonctionnement qui est dans la rassurance, c'est-à-dire que c'est quelque chose de connu. Mm-hmm. Si cette fille-là va avec un homme qui lui offre des roses tous les jours, eh ben elle risque de bugger en se disant « mais non, mais c'est pas possible, moi je ne connais que le fonctionnement où l'homme, il tape sa femme ». Donc ça peut être un schéma de répétition. Alors attention, ça, j'ai pris un cas extrême, on peut le prendre donc plusieurs cas.
C'est un cadre, en fait.
Tout à fait.
C'est un cadre. Tout à fait. On a besoin de se retrouver dans un certain cadre.
Tout à fait. Mais on peut aussi faire un schéma de réparation. Ah. Alors, attention, schéma de réparation, si je prends le même exemple, ça peut vouloir dire que moi, je prends un mari et que je lui donne des baffes. Bon, excusez-moi, mais effectivement, je peux être dans une certaine sorte de réparation, ouais. Mais qui sera en fait de passer d'un extrême à un autre.
C'est pas le but non plus,
je pense. C'est pas le but non plus. Ce qui est excessivement difficile aujourd'hui au niveau du couple, alors, je dirais pas que c'est une de mes spécialités, mais je reçois beaucoup de couples parce que je travaille aussi sur le couple, les deux, et c'est très, très intéressant. Trouver un équilibre dans un couple, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que il y a toujours ce qui a été vécu au-dessus, alors dominant, dominé.
Et puis, bon, on sait très bien comment ça se passait en général avant. C'était quand même plutôt la femme qui était soumise, l'homme dominant. Et souvent, la femme qui ne pouvait pas partir parce qu'elle ne travaillait pas.
Alors, attention, tout ça a changé. Il faut dire que nous, on est des générations issues de guerres. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces guerres ? Il s'est passé que les hommes sont partis, se sont absentés. Et pendant que les hommes sont partis à la guerre, eh bien, il y a les femmes qui ont été obligées de prendre la place de l'homme. Alors, au niveau des travaux, au niveau des entreprises, au niveau de l'autorité des enfants, à tout niveau. Donc, ces femmes, en fait, ont investi ce bleu de travail. Et lorsque l'homme est revenu ou pas, eh bien, en fin de compte, il n'avait pas forcément sa place parce que la femme a pu se rendre compte, alors que depuis des années, elle était considérée un peu comme l'objet et puis comme celle qui s'occupait du ménage et des enfants. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire la même chose que leur mari, c'est-à-dire qu'elle pouvait aller conduire le tracteur ou tenir une entreprise ou avoir de l'autorité auprès des enfants. Et en fait, elles ont investi ce qu'on appelle leur masculin. Parce qu'en fait, en chacun des êtres humains, il y a ce qu'on appelle le yin et le yang. Oui. C'est le masculin, le féminin. Masculin, c'est plutôt autorité, sécurité. Féminin, c'est plutôt créativité, affectif. Et puis, on s'est aperçu que la femme aussi pouvait investir l'autorité et la sécurité.
Et donc, que l'homme aussi peut investir son côté féminin.
Tout
donc,
à fait.
Messieurs, investissez votre côté féminin.
Alors, l'investir, c'est bien. Par contre, l'accepter, c'est une autre histoire. Il y a aujourd'hui, pour faire des équilibres de couple, des femmes qui sont dans leur féminin, dans leur masculin, pardon, et des hommes qui sont dans leur féminin. Simplement, là où le bât blesse, c'est que la femme, il y a un moment dans son couple où elle a envie d'avoir à côté d'elle l'homme. Le vrai, le dur, le tatoué, le sécurisant, l'autoritaire. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'elle voudrait qu'il soit comme ça, mais elle ne lui laisse pas forcément la place.
Alors oui, là, c'est toute une question d'équilibre.
Tout à fait. C'est toujours une question d'équilibre.
Compliqué à accéder.
Voilà.
Parce que, je suis une femme, donc je parle de mon point de vue de femme. J'ai l'impression que nous venons tout juste d'acquérir une place où on peut être plus ou moins nous de manière assez libre. Et de devoir du coup essayer de se rediminuer par rapport à ça pour laisser la place à l'homme, je pense qu'il y a un travail à faire derrière. Mais aussi bien de la femme à laisser sa place.
Que de l'homme à la prendre.
C'est ça. Ouais. Et aussi de réaliser peut-être qu'être femme ne veut pas dire être soumise.
Alors, le mot que tu as utilisé, diminuer, pour moi, c'est un mot qui n'a pas sa place. Nous n'avons pas à nous diminuer pour travailler sur notre féminité. Parce que quand même, il faut le dire, les femmes qui sont rentrées dans leur masculin ont très souvent oublié leur féminin. Mmh. Donc ça, c'est important. Parce qu'effectivement, ce n'est pas être diminué que d'accepter de faire des tâches ménagères, la cuisine, de s'habiller sexy. Alors, ça ne veut pas dire... C'est pas parce qu'on est dans son masculin qu'on ressemble à un homme, attention. Mais une femme qui est dans son masculin, ben, c'est une femme de tête. Hein. Mmh. C'est une femme qui prend les rênes, c'est une femme qui est capable de changer les bougies de la voiture, de passer la tondeuse à gazon, puis le mari peut être là en train de faire la cuisine. Alors, non, c'est pas se diminuer, c'est réinvestir quelque chose qu'on a peut-être oublié, qu'on a peut-être mis de côté.
D'accord.
Mais effectivement, il faut que l'homme aussi veuille bien la reprendre, cette place, parce que lui la rendre, c'est bien, mais encore faut-il que lui veuille prendre cette place d'homme, sécurité, autorité, qui a un sacré boulot, faut le dire.
Et donc, le fait d'aller travailler en psychogénéalogie, par exemple, donc sur un couple, mm-hmm. donc chacun dans sa branche, ça va permettre au couple de retrouver sa place d'homme et sa place de femme.
Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire lâcher tout le reste.
Ok.
Voilà. Mais ça veut dire réapprendre à faire réémerger le couple. Mais le couple, non pas l'homme et la femme, mais peut-être l'amant, la maîtresse, quelque chose de plus subtil mm-hmm. Que d'être là à la maison, de s'occuper des gamins et du quotidien. Parce que souvent, c'est pareil, dans un couple, on en oublie aussi le couple. Hein. Il y a aussi les enfants, il y a aussi la famille, il y a tout ce qui s'est passé au-dessus. Et c'est réinvestir en fait qu'un couple, ça peut être plein de choses à la fois. Ça peut être des parents, ça peut être des chefs d'entreprise, mais c'est surtout en fait un homme et une femme, et avec tout ce que ça comporte en fait. Et c'est ça qui est important. Et l'équilibre de tout le reste doit d'abord passer par l'équilibre du couple.
Et donc dans ces moments-là, toi, ton travail, ça va être de montrer le fonctionnement de chaque couple dans la famille, pour dire attention, là vous pouvez reproduire ça, mais ça ne vous appartient pas.
Tout à fait.
Et donc voilà, donc là on en vient à ça. Ok, tu nous montres du doigt, tu nous dis ce qui ne va pas, on a la fameuse patate dans les mains qui est un peu moins chaude. Est-ce qu'il y a un moyen de se libérer de tout ça?
Bien sûr qu'il y a un moyen, je vais vous en parler.
Super. Alors moi, ce que je propose, c'est une petite musique pour qu'on puisse intégrer un petit peu tout ce qu'on a entendu, réfléchir un petit peu à pas mal de petites choses. Et après, nous allons parler de comment faire pour se protéger. Maxime Le Forestier, toi le frère que je n'ai jamais eu.
Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Un an après moi tu serais né, alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Elle n'est pas là, à qui la faute? À mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, frère que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Si tu ne m'avais pas fait faux bond, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Si la vie s'était comportée mieux, elle aurait divisé en deux les paires de gants, les paires de claques.
elle aurait sûrement partagé les mots d'amour et les pavés, les filles et les coups de la traque. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? Pas à mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela, toi le frère que je n'aurais jamais. Je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant, pour une fille. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille.
C'était Maxime Le Forestier, toi le frère que je n'ai jamais eu. Vous êtes bien sur Radio Sainte-Afrique, à l'émission On parle de tout et sur tout ça, avec Véronique César, qui nous parle ce soir de psychogénéalogie. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, vous avez raté pas mal de petites choses intéressantes, mais c'est pas grave. Vous allez arriver pour le plus intéressant, le plus important, qui est comment rompre les liens transgénérationnel. Donc on a vu juste avant qu'on avait une certaine place dans la fratrie qui faisait qu'on pouvait tenir des choses de nos parents, de nos grands-parents, donc de nos aïeux. Et il y a un moyen de s'en libérer. Youpi, super! Nous sommes super contents de le découvrir. Donc je vais laisser la place à Véronique qui va pouvoir nous expliquer un peu comment faire et comment ça fonctionne pour se libérer de ça.
Alors, rompre les liens, attention, parce que souvent les gens pensent que rompre les liens, ça veut dire je vais couper les liens avec tous les gens de ma famille. C'est pas du tout ça. Voilà, donc ça c'est important. Déjà, il faut savoir qu'une prise de conscience peut déjà amener à un changement. En thérapie, on dit qu'en fait, il faut aller chercher dans l'inconscient pour ramener à la conscience. C'est-à-dire que souvent, les gens ont un fonctionnement, mais n'ont pas conscience de leur fonctionnement. Donc déjà, le fait de les faire réfléchir sur leur fonctionnement, eh bien, va leur permettre de prendre conscience du comment ils fonctionnent. Et ça peut déjà être un énorme changement par rapport à leur vie et à leur histoire.
C'est du développement personnel, en
tout
fait.
Tout à fait. On est en thérapie, de toute façon.
Hein. Ouais, ouais.
Donc, ça, c'est la première chose. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi donc? Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des résistances. On est issus de familles, tous, dans lesquelles il y a des valeurs, dans lesquelles il y a des croyances. Et en fait, on descend tous de familles qui sont régies par des espèces de lois. Et en fait, il est fort difficile de s'extraire des lois au risque de se sentir rejeté ou exclu de la famille.
Comme par exemple les familles où il y a des enfants, on ne peut pas se séparer parce qu'une famille, c'est le schéma, le père, la mère, les enfants. Donc, quitte à rester malheureux.
C'est ça.
Même si quelqu'un nous a montré notre fonctionnement par rapport à la psychogénéalogie, de dire « je sais, j'ai conscience ». Mais tant pis.
C'est ça.
Ah, ouais. Donc même
donc, là, ça, on parle au niveau des couples, mais il y a des choses, par exemple, allez, imaginons que dans une famille à la quatrième génération au-dessus, il y a eu un étranger qui soit rentré dans la famille et ça se soit mal passé. Eh bien, il a pu rester ancré dans les mémoires de la famille que l'étranger n'est pas bon pour la famille. Et la petite dernière, là, qui tombe amoureuse d'un étranger, eh bien, du coup, elle va peut-être ne pas s'autoriser à vivre son amour.
D'accord.
Parce que dans les croyances familiales, eh bien, on veut pas l'étranger, il est mauvais.
Et ça pourrait expliquer beaucoup de choses, surtout pour en ce moment, je trouve.
Tout à fait. Et il faut savoir que si jamais elle décidait de partir avec l'étranger, elle pourrait être exclue de la famille, tellement la peur serait ancrée au niveau de la famille à propos de l'étranger. Donc, effectivement, des choses, et ça s'est vu, moi j'en ai vu à de nombreuses fois, des choses qui sont arrivées il y a des générations en arrière, en fait, ont des répercussions sur la vie d'aujourd'hui. Le truc tout bête, aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui ont des bébés sans être mariées.
Oui.
Eh bien, il y en a certaines qui traînent traîne comme un boulet, une espèce de honte par rapport à ça. Et quand on va chercher, eh bien, c'est que 2, 3, 4 générations au-dessus, ben, il y a eu une fille mère. Oui. Et à cette époque-là, c'était la honte ultime. J'en ai une, par exemple, où sa grand-mère, quand elle a annoncé qu'elle était enceinte, eh bien, le papa l'enfermait dans la cave pendant 9 mois en lui disant bah, de toute façon, les voisins ne doivent pas savoir, la famille ne doit pas savoir. Donc, elle a vécu 9 mois de grossesse dans la cave. Et quand elle a accouché, son père lui a dit, mais de toute façon, tu sortiras quand tu auras trouvé un mari. Alors, effectivement, aller trouver un mari dans la cave, c'était pas évident. Et vous allez voir quand même que c'est assez exceptionnel. Sa grande sœur qui venait de se fiancer, eh bien, le fiancé de sa sœur a rompu les fiançailles pour venir se fiancer avec elle, il l'a mariée pour la sortir de la cave.
Mais donc, attends, c'est quelque chose que tu nous racontes que quelqu'un qui est venu dans ton cabinet.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est dur parce que bah, sa mère, non seulement elle a entre parenthèses piqué le futur mari de sa sœur, donc du coup gros clash entre les sœurs. S'est mariée avec un homme qui ne l'aimait pas et qu'elle n'aimait pas parce qu'il l'a juste sortie de la cave. Et puis bon, avec tout ce que ça a pu engendrer, donc cette dame, elle n'était pas très bien, je dois vous avouer. Mais bon.
Bah oui, oui, mais. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là quand il y a de la résistance comme ça ? C'est tant pis ?
Alors, non, pas tant pis, jamais tant pis. On travaille avec... Alors, c'est pareil, c'est pas de la magie, mais on va travailler avec ce qu'on appelle des actes symboliques. Alors, que Jodorowsky appelait les actes psychomagiques. Alors, justement, pour parler de Jodorowsky, qui est donc un thérapeute qui travaillait beaucoup avec les liens transgénérationnels, lui, il travaillait en symbolique matérielle, c'est-à-dire qu'une femme arrivait en disant « j'en ai marre de traîner toutes ces casseroles ». Donc, il lui faisait mettre un nom à chacune des casseroles, donc des problématiques qu'elle portait. Et un matin, elle venait au cabinet, il lui attachait le nombre de casseroles correspondant au nombre de casseroles qu'elle avait au pied, physiquement, et elle traînait ses 10 casseroles ou 15 casseroles toute la journée. Et à la fin de la journée, il lui demandait de couper vraiment avec une paire de ciseaux les casseroles pour s'en débarrasser. Il faisait de même pour l'homme qui arrivait ou la femme qui arrivait en disant bah, je porte sur mes épaules un gros chargement ou des boulets ou des choses comme ça. Et bien il pouvait faire porter dans un sac à dos 20 kilos de cailloux qui étaient censés correspondre à tout ce que la personne portait comme lourdeur sur le sac à dos, et à la fin de la journée donc lui faisait jeter les boulets dans le sac à dos. Alors moi je fais ça de façon un peu plus light. Voilà, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a des actes que je fais faire au niveau physique et matériel.
Avec des casseroles ?
Non, pas des casseroles, ça je ne le fais pas. Mais bon, pour par exemple les actes de deuil, hein, on travaille sur des deuils vraiment en faisant un rite de deuil. Hein.
Bon, un enterrement.
Tout à fait, tout à fait.
Donc ça fonctionne pour les IVG, pour les enfants mort-nés.
Alors, entre parenthèses, juste, on a très très peu de gens qui prennent en charge toutes ces femmes qui ont eu des IVG ou qui ont fait des fausses couches, sachant qu'en fait, derrière, il faut, même si l'embryon faisait 2 mm, la femme a vraiment eu l'impression de perdre un bébé. Mmh. Voilà. Et en fait, ce n'est pas du tout pris en considération. Il y a des femmes 20 ans après un IVG ou une fausse couche qui n'ont pas fait le deuil en fait, de cet enfant.
Oui, je tiens juste à dire, tu dis les femmes, mais
les hommes aussi.
Les pères aussi.
Oui, oui, j'ai eu un papa il n'y a pas longtemps. Ouais. Il me disait, depuis 12 ans que ma femme a avorté, tous les jours, je me demande comment il serait, qui il serait, comment je l'aurais appelé, etc. Et on a fait un travail par rapport à ce monsieur-là.
Et ça, je tiens vraiment à le dire pour que les hommes qui se sentent concernés sachent que, voilà, de ce côté-là aussi, ça évolue et qu'on comprend que vous aussi... ça peut être dur pour vous, voilà. Tout vous êtes entendu et compris.
Tout à fait, donc ça c'est important. Un acte de coupure de lien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, on va aller chercher la base, le nœud de la problématique, et on va l'écrire. En fait, c'est un travail écrit que je fais moi et que la personne va écrire après de sa main opposée. C'est-à-dire qu'on a la capacité dans notre cerveau, il y a une partie où on peut réintégrer de nouvelles données à notre cerveau émotionnel inconscient. Et donc, c'est comme si on réécrivait une nouvelle histoire avec de nouvelles données. En gros, je rends à César ce qui est à César. Et si mes parents ou mes grands-parents ont vécu un événement traumatisant, il leur appartient, il ne m'appartient pas.
D'accord, voilà. C'est une déprogrammation.
C'est ça. C'est complètement une déprogrammation transgénérationnelle au niveau des événements traumatisants. Alors, c'est pas magique, mais pour moi, je trouve que ça marche très, très bien. Et après, il y a une reprogrammation au niveau de « j'ai le droit, je m'autorise ». Voilà, de la liberté de chacun et de l'autorisation d'être, de faire plein de choses qu'on ne s'est jamais permis, en fait, par rapport à toute l'histoire familiale.
D'accord. Donc, il y a plusieurs façons de rompre les liens. Donc, on l'a vu avec... des casseroles, des cailloux.
Tout à fait.
Ou par l'écrit, qui est écrire un acte symbolique, qui me semble qu'on n'a pas posé le mot, mais voilà, un acte symbolique, qui est de manière écrite, qui permet de déprogrammer le cerveau, déprogrammation transgénérationnelle, donc des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Cet acte se passe en deux temps. Donc le temps, je recadre la réalité de ma vie, donc en expliquant. Donc ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. Je rends à mes aïeux ce qui leur appartient. Et en deuxième temps, je suis, je deviens, j'accède. Donc ce qu'on appelle une ouverture.
C'est ça.
Et bah, c'est super beau, c'est un super programme. Écoutez, chers auditeurs, je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez surtout pas à laisser des questions où nous vous répondrons avec grand plaisir. Nous allons pouvoir clôturer cette émission avec Noir Désir, l'enfant roi. Bonne soirée à tous et à bientôt.
À bientôt.
Tu tiens ma joie, ma paix entre tes mains.